France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, en passant comme tous les lundis dans notre Allegretto, soit en passant par un pays, par une avenue, par un monument ou par un événement. Alors aujourd'hui, l'exposition universelle, laquelle, celle de la fin du 19e, c'est celle la plus intéressante, je dirais, à Paris et à Bruxelles. Alors à chaque édition, des centaines de pays se rassemblent dans une ville en construisant leur propre pavillon éphémère et mettent en scène leur savoir-faire. C'est un peu un petit monde en miniature, avec ses défauts et ses richesses. Et le public s'immerge dans les spectacles, bien sûr, et dans les ambiances. Alors on ouvre avec Wagner, et oui, il paraît qu'en 1900, à Paris, à l'occasion de l'exposition universelle, jouaient les maîtres chanteurs de Nuremberg. Alors ça y est, on y est, Georg Scholti dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et belle journée.
Thank you.
après, c'est-à-dire le début des maîtres chanteurs de Nuremberg, de Richard Wagner avec Georg Scholti qui dirige l'orchestre philharmonique de Vienne pour ouvrir dans notre Allegretto qui s'appelle aujourd'hui en passant par l'exposition universelle seule plutôt de 1900, mais pas seulement, l'exposition donc universelle qui est donc ouverte le 14 avril 1900, grande pompe, bien sûr, un événement mondial, culturel et politique, au cours duquel les musiciens sont là, Saint-Saëns, Massenet, Debussy, en passant par Forêt, mais aussi Cécile Chamidade. Malheur vient avec le Philharmonique de Vienne. C'est pour ça que nous écoutions l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Alors avant de construire quelque part notre carte postale sonore de l'exposition universelle de 1900, faisons un petit pas de côté. Nous sommes 3 ans avant et nous sommes en Belgique, puisque Bruxelles aussi a accueilli ça, son exposition universelle. Alors je trouvais un très beau disque avec les archives sonores de la Bibliothèque nationale de France, enregistré en 1958 pour justement marquer l'ambiance à Bruxelles en 1897. Donc il faut imaginer, marche officielle de Bruxelles Kermesse, ça s'appelait comme ça, Bruxelles Kermesse en 1897 avec la fanfare officielle de l'exposition internationale. À nos amis belges avec cette fanfare officielle de l'exposition internationale composée pour Bruxelles Kermesse, c'est-à-dire l'exposition universelle de 1897, trouvée sur un disque formidable avec les archives sonores de la Bibliothèque nationale de France. Alors ça y est, nous sommes à Paris donc pour l'exposition universelle en 1900. Il faut imaginer Paris 1900. Alors c'est une exposition évidemment magnifique. On a construit le pont Alexandre III, mais on a construit aussi un trottoir roulant à des vitesses, 4 km ou 8 km par heure. Cette exposition est plus joyeuse et populaire que les autres. Elle marque un vrai tournant dans l'organisation des fêtes internationales. Il y a 50 millions de visiteurs. Et les visiteurs s'amusent, par exemple, devant le cinéma des Frères Lumière, mais aussi avec la grande roue de Chicago. On l'appelle comme ça, la grande roue de Chicago, de 60 mètres de haut. Et un certain Rudolf Diesel expose son moteur diesel fonctionnant à l'huile d'arachide. Alors, il faut aussi imaginer toutes ces bruits que sont à Paris en 1900. Alors, je l'ai trouvé dans un très beau disque de Pierre Charia, c'est-à-dire un grand joueur de l'orgue de Barbarie, avec ses amis clarinettistes, le trio di Clarone, pour quelques danses exotiques de Jean Français.
Thank you.
quelques danses exotiques de gens français pour illustrer ce bruit à Paris des 1900 de l'exposition universelle, peut-être avec la construction de ce trottoir roulant, ou aussi avec surtout la construction de pont Alexandre III. Nous écoutions Bayao, Nube Gris, Sambalente, Mambo et Merengue, donc quelques danses exotiques de gens français, dans un arrangement pour orgue de Barbarie et clarinette avec Pierre Charial et le trio Di Clarone, le trio des clarinettes. Alors nous sommes à l'exposition universelle à Paris en 1900. Bon, il y a 50 millions de visiteurs. L'exposition ouvre ses portes le 14 avril. Bon, tout n'est pas en place, mais le public est vraiment ravi. L'ouverture de l'exposition coïncide aussi avec l'ouverture de la première ligne du métro qui allait de la porte de Vincennes jusqu'à la porte Maillot pour l'ouverture des Jeux Olympiques de 1900, vous imaginez. Mais bon, la ligne est un tout petit peu en retard. Mais les entrées sont quand même dessinées par Hector Guimard. Vous connaissez certainement l'entrée qui est devant la Comédie Française. Alors, comme la première ligne allait de la porte de Vincennes jusqu'au porte-maillot, j'ai imaginé un compositeur qui habite pas très loin de porte-maillot dans le métro à l'époque. Voici donc Claude Debussy qui habitait pas très loin de l'Arc de Triomphe. Voici son Quatuor à cordes qui était créé en 1897. Voici les deux premiers mouvements animés, très décidés et assez vifs et bien rythmés évidemment pour imaginer Debussy dans le métro. Voici donc ce Quatuor à cordes Debussy avec le Quatuor Hermès.
Thank you.
Ça y est, vous avez vu Claude Debussy? Il est sorti du métro à la station Porte Maillot et il est allé chez lui, puisqu'il habite au 24 square de l'avenue Foch. Oui, c'était bien lui, Claude Debussy. Ici donc, nous écoutions deux premiers mouvements de son quatuor à cordes en sol mineur, animé et très décidé et assez vif et bien rythmé avec le quatuor Hermès. Un petit pas de côté, on aime bien dans nos allegretto les petits, parfois un tout petit peu grand, pas de côté. Alors, nous sommes toujours à l'exposition universelle à Paris, mais nous avons pris le train pour aller encore une fois à Bruxelles et nous sommes déjà en 1910. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles? Évidemment, l'exposition est loin d'être muette. Il y a du bruit partout. Et la musique. Et on construit des salles. On construit, on rénove et on construit. On construit par exemple le théâtre de Vieux-Bruxelles. On construit le Palace Dancing. On construit aussi, d'une façon plutôt folklorique, les miniatures des quartiers très populaires de Bruxelles. Et les orchestres de la musique classique, on va dire sérieuse, côtoient de très près, les orchestres de la musique un peu moins classique, mais d'autant plus sérieuse. Tout se mélange joyeusement avec la musique aussi d'outre-Atlantique. Alors voici Tivoli Band avec Eric Matteau qui a réuni justement ces partitions justement de cette époque. Alors Eric Matteau dirige Tivoli Band pour The Jumper et Bruxelles Exposition. Tivoli Band. L'orchestre s'appelle Tivoli Band, placé sous la direction de Eric Matteau, qui a fait un travail formidable justement sur ces partitions de début de siècle. Nous écoutions donc le disque qui s'appelle Bruxelles, Exposition Universelle Bruxelles Kermesse de 1910, et nous écoutions The Jumper et Bruxelles Exposition de François Simon. Retour à Paris. Enfin, on joue la musique des femmes, la musique des compositrices. Alors, je vous propose d'écouter les trios en sol mineur de l'opus 11 de Cécile Chaminade. Ce sont les débuts timides mais magnifiques de cette compositrice qui a déjà 43 ans à l'exposition donc universelle en 1900. Bizet l'appelait mon petit Mozart, mais Bizet n'est plus là. Il faut qu'elle se débrouille toute seule. Alors je vous propose d'écouter son Presto Leggero de son trio de Cécile Chaminade avec les jeunes, Vive les jeunes, issus de la Fondation Gauthier Capuçon. Voici donc Sarah Jégou-Sagman, Yen Yu au violoncelle et au piano, Martina Consoni. La musique de Cécile Chaminade. Nous écoutions le troisième mouvement, Presto Leggero, de son trio en sol mineur de l'opus 11 pour violon, violoncelle et piano, avec Sarah Jégou-Sagman, Jane Yu au violoncelle et Martina Consoni au piano. Alors je voulais justement en profiter pour rester avec la jeune génération, avec un petit, même un grand coup de cœur pour ce disque qui vient de sortir avec le Trio Zelia. Le Trio Zelia voit le jour en 2018, fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galli, le violoncelliste Maxime Canesson et le pianiste Jorge González Bouar Hassan. Alors voici mon petit coup de cœur d'aujourd'hui, de notre lundi, en passant par l'exposition universelle. Voici le deuxième mouvement Andante con moto du trio avec piano de Franz Schubert. Un vrai coup de cœur pour cette version du trio avec piano en mi bémol majeur, Deutsche 929 de Franz Schubert, avec Manon Galli, Maxime Kenesson et Jorge González Boyasan, c'est-à-dire le trio Zelia qui vient de sortir chez Mirare, plein de sensibilité. Et je dois dire que les tempos nous va bien, leur tempo nous va bien ce lundi. Alors on continue avec l'exposition universelle de 1900, puisque nous sommes donc à Paris, dans notre Allegretto 1900. Quelle folie! 50 millions de visiteurs. Alors nous sommes quelque part à la fin de l'exposition universelle qui a commencé le 14 avril et le début des Jeux Olympiques, puisque les débuts des Jeux Olympiques à Paris, en 1900, c'était le 12 juillet. Et le 12 juillet, c'est aussi la création du Requiem de Gabriel Fauré pour l'orchestration symphonique. Donc il faut imaginer, au milieu de tout ce brouhaha, la Madeleine, avec Liberame et In Paradisum, dans cette version donc orchestration symphonique. Voici ces deux mouvements du Requiem de Gabriel Fauré, avec l'Orchestre National de France, avec Accentus, avec la Maîtrise de Paris. Ils sont tous placés sous la direction de Laurence Equilbet. Tremenda in die Nous écoutions Liberame et In Paradisum de Requiem de Gabriel Fauré avec Sandrine Pio, Stéphane Degout, Christophe Henry à l'orgue, avec Accentus, la maîtrise de Paris, l'Orchestre National de France. Ils étaient tous placés sous la direction de Laurence Equilbé.
Kézako.
Écoutez.
Mais qu'est-ce que c'est?
Écoutez.
Mais qu'est-ce que
écoutez.
C'est?
Écoutez.
Kézako.
Écoutez.
C'est vrai?
Qu'est-ce que c'est?
Écoutez. Kézako.
Requiem de Fauré qui était créé dans sa version orchestrale en 1900, le 12 juillet exactement. Alors voici un extrait de l'opéra Louise de Gustave Charpentier, que cet opéra aussi a été créé en 1900, le 2 février, au Théâtre National de l'Opéra Comique. Pas avec beaucoup de succès, mais finalement, Louise a vraiment acquis le cœur de son public. Alors, je vous propose d'écouter cette aire du troisième acte, très célèbre, qui s'appelle « Depuis le jour », cette aire de Louise. Alors, qui est-ce? Qui est-ce qui chante? Donc ça, c'est vraiment pour les amoureux de l'opéra. À qui appartient cette voix? Est-ce que c'est Callas, Maria Callas? Est-ce que c'est Mirella Frani? Ou est-ce que c'est Leontine Price? C'est un tout petit peu difficile. Et on ne regarde pas la programmation sur le site, bien sûr. Alors, je répète la question. Qui est-ce qui chante? Mirella Frani, Maria Callas ou Leontine Price? Ou peut-être, pour vous donner un petit indice, c'est Georges Prêtre qui dirige l'Orchestre National de la RTF.
Thank you.
Nous écoutions l'air de Louise de l'opéra de Gustave Charpentier qui était créé donc au début de l'année 1900. Nous écoutions donc cette air célèbre du troisième acte, cet opéra naturaliste un peu à la Zola. Et c'était Georges Prêtre qui dirigeait l'orchestre national de la RTF en 1961, si vous cherchez le disque. Et alors, qui était-ce? Qui est-ce qui chantait Louise? Ce n'était pas Mireille Lafreny, ce n'était pas Leontine Price non plus, c'était bien Maria Callas, on la reconnaît. On la reconnaît vraiment bien. Donc un grand bravo et merci pour vos messages sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. On va quitter un tout petit peu l'exposition de 1900 pour la même exposition, mais de 1889. C'est là où Debussy découvre pour la première fois dans sa vie les orchestres javanais et balinais. Bon, vous connaissez la suite. Son imagination, son inspiration se met en marche, en plus que d'habitude, je dirais. Alors, je vous propose d'écouter donc Pagode, des estampes de Claude Debussy, qui était créé quelques années juste après l'exposition de 1900. Mais ici, c'est un arrangement un peu fou, je dirais, de Percy Grainger pour deux pianos. Harmonium en percussion, on dirait une fausse belle époque. En tout cas, Simon Rattle dirige l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham. Simon Rattle dirige l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham pour cet arrangement pour deux pianos, harmonium et percussion des pagodes des estampes de Claude Debussy qui était créé en 1904 à Paris, à la salle Erard. Alors, je me suis dit comme cette œuvre, surtout cet arrangement est vaguement indonésien, je me suis dit c'est vraiment vaguement dans le sens debussien. Alors, on reste avec les vagues sur les toits des pagodes. On va écouter la version originale. Et parmi toutes les versions qui existent donc dans la discothèque de Radio France, nous avons choisi les pagodes par Jacques Rouvier. Pagode, estampe de Claude Debussy. Au piano, c'était Jacques Rouvier. On a failli oublier, mais non. Voici donc la version qui a gagné hier la tribune des critiques des disques. On écoutait la version des Chants d'Auvergne. Et je dirais, haut les mains, c'était Véronique Jans qui a gagné. Brava, brava.
Pastorus in le bosco, colo pastorus in le bosco. Gardo se muto, non ti dirò la 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 la. Gardo se muto, non. Chi lo riscontro le mossere, riscontro le mosseret lumus logazzam ti dirò la 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 lumus logazzam
qui a gagné hier donc la tribune des critiques de disques devant Frederica von Stade, Kirite Kanawa, Victoria de Los Angeles, Anna Morfo, c'était notre Véronique Jans dans ses chants d'Auvergne de Joseph Cantloup, encore une fois brava brava. Voici notre petite place.
France Musique, Allegretto, Denisa Kershova.
Voici les invitations donc pour un concert de musique de chambre autour de la pianiste Elena Bashkirova à l'Opéra National de Bordeaux, jeudi 2 mai, donc ce jeudi. Et pour l'occasion, écoutez bien, Elena Bashkirova a réuni autour d'elle son fils, Michael, qui s'appelle dans la ville Michael Barenboim, Bilal Al-Nemr, fantastique violoniste syrien, Gérard Cosset à l'alto et Astrid Sirenanossian au violoncelle, au programme Mozart, Schumann, en quatuor et en quintette. Allez-y donc à l'auditorium de l'Opéra National de Bordeaux le jeudi 2 mai à 20h. Voici Elena Bashkirova dans Anthony Dvorak. Évidemment, on se réveille.
Thank you.
Elena Bashkirova, ici, dans le Furiante des 13 esquisses poétiques de Antonín Dvořák. Je vous rappelle que Elena Bashkirova sera donc ce jeudi à l'Opéra National de Bordeaux, entourée par son fils, Michael Barenboim, mais aussi Bilal Alnemre, Gérard Cossé et Astrid Cyranossian pour un concert autour de Mozart et de Schumann. Allez-y, mais avant, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Ainsi se termine notre Allegretto d'aujourd'hui. Un grand merci à Stéphane Poidevin qui était à la technique et à la réalisation, Pauline Boisaubert, l'attachée de l'émission. Il faut que je fasse vite, portez-vous bien. À demain, 10h30.
À réécouter sur francemusique.fr.